Vous écoutez Baokultur Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à écouter sur espatio.ch.
Bonjour, bienvenue sur Baokultur Radio. Nous partons cette semaine à Bâle, visiter la Frank Areal, en compagnie d'Eric Honegger. Eric Honegger, c'est le cofondateur du Baobureau In Situ, avec Barbara Boozer, ce bureau dont on a beaucoup parlé, et qui se concentre sur l'existant, depuis environ 25 ans. Mais ce duo a aussi cofondé ou contribué à créer d'autres entreprises, comme Denkstadt, une agence qui se concentre sur le processus participatif de transformation de ces grands sites, justement comme la Frank Areal, ou Circular, une plateforme qui vise le réemploi d'éléments de construction, ou encore Unterdessen, une structure dédiée à l'occupation temporaire ou transitoire. Eric, lui, vous le verrez dans ce podcast, appelle l'entre-deux. Et c'est justement le sujet qui nous intéresse, car cet épisode de la Baokultur Radio résonne directement avec le dossier Transition, publié au mois de mai 2026. En 2000, le duo Barbara Boozer et Eric Honegger lançaient leur première grande opération, le rachat de la friche de Gundeldingerfeld à Bâle. Au lieu de tout démolir et développer des espaces rentables, le duo parvenait à lancer un processus patient de transformation, tout en douceur, et qui tient compte des besoins des habitants. Peu d'argent, disait-il, mais beaucoup de temps. Eh bien, 25 ans plus tard, deux investisseurs balois souhaitent créer un nouveau Gundeldingerfeld, cette fois sur la Frank Areal. La Frank Areal, c'est le site de production des mayonnaises et moutardes Tommy, racheté par Nestlé. Or, Nestlé quitte une partie du site et la friche est actuellement en transition. On y trouve un restaurant, des ateliers d'artistes, mais aussi une maison de la danse, la Tanzhaus, et bientôt une maison dédiée à l'économie circulaire, la Kreislauf House. Et en plus, il y aura aussi du logement, coopératif et social, en partie créé en transformant l'ancien bureau de l'entreprise Nestlé. Et c'est là que nous nous trouvons avec Eric Honegger quand il me raconte le processus patient de transformation de la friche. On part donc ensemble visiter la Frank Areal. Vous allez voir, c'est absolument passionnant tout ce qu'on peut faire quand on n'a pas de plan. Après la visite, on reviendra au bureau, parler un petit peu du projet financier. J'ai même demandé à Eric Honegger s'il pensait que ce modèle était transposable en Suisse romande et s'il n'y a pas forcément de mécène éclairé derrière un projet. Est-ce que ça marche? Vous écouterez sa réponse en fin d'épisode et comme toujours, vous pouvez retrouver les plans et les photographies qui accompagnent cet épisode sur espatium.ch. Voilà, bonne écoute sur Baokultur Radio.
Donc ça, c'était le bâtiment administratif et le magasin Nestlé en bas. Et donc, depuis qu'on a pu reprendre le site, on fait de l'entre-deux. Donc ça, tout ça, c'est Nestlé.
La partie... l'ensemble de la
l'ensemble, friche. Ouais. Et en fait, on partage en fait la parcelle ici. Et eux, ils continuent à produire tout ce qui est moutarde, mayonnaise. Et puis ici, cette partie-là, c'était surtout café, un carôme à base de la chicorée.
Ah oui.
Donc on a ici les entrepôts, ici torréfaction, ça c'est l'ancienne torréfaction, ça c'est la nouvelle torréfaction. Et puis il y avait évidemment le bâtiment administratif, des cuisines, ce genre de choses ici. Allô. Et ça, ici en haut, c'était aussi production de mayonnaise et d'autres produits. Et la production des tubes en aluminium pour la mayonnaise et tout, ça se fait aussi ici. Même ça, maintenant, ils ont bougé là-haut. D'accord. Et pendant quelques années, c'était vide. D'accord. Et puis maintenant, ils ont décidé, à un moment donné, ils ont décidé de vendre. Donc, nous, on a essayé d'acheter avec la Cool Quartier Immobilien.
Okay. Cool Quartier. C'est l'entreprise que vous avez fondée.
C'est eux qui ont fondé. Nous, on n'est pas impliqués dans l'achat.
D'accord.
On n'est pas impliqué. Nous, on a un droit de superficie. Donc, en fait, nous, les bâtiments, maintenant, nous appartiennent et à eux appartiennent
le sol.
Le sol.
On va dire. Et puis, donc, on se met en cèdre. Partir, c'est donc les Eckenstein.
Ouais.
Et puis, vous, c'est Wegwarte.
Ouais.
C'est ça.
Et les Eckenstein, ils ne sont pas seuls. Ouais. Donc, il y a une caisse de pension, une fondation de la région. En fait, les Tommy. Les Tom, ils ont fait une fondation et eux, ils font partie du Cool Quartier Immobilier. Donc, en fait, ils vont ouvrir l'actionnariat, pas simplement aux Eckensteins, mais à d'autres. Donc, une grosse caisse de pension et tout. Donc, là, le financement, dans cette opération-là, le financement, en fait, est assuré par la Cool Quartier Immobilier.
D'accord.
Parce que dans les autres projets qu'on a, Nous, on a dû souvent organiser, si nous, on devient droit de superficie, on a souvent dû organiser nous-mêmes le financement ou alors on a accompagné les propriétaires dans leur démarche. Ouais.
Donc vous êtes que l'entreprise immobilière qui gère en fait le...
Ici, les bâtiments nous appartiennent, dans ce cas-là.
Les bâtiments vous appartiennent?
Oui, parce qu'on a un droit de superficie. Donc ça, tu sépares bâtiments et sol. Ouais. Et donc le quartier, à eux appartiennent le sol et à nous appartiennent les bâtiments. Et on a comme on paye un loyer pour pouvoir parquer nos bâtiments sur leur sol.
Ouais. Ça, c'est un modèle qu'on devrait... qu'on devrait diffuser plus largement en Suisse, tu ne crois pas ?
Si les sols appartiennent à la communauté, ce serait fantastique, oui. C'est pour ça qu'on préconise qu'en fait les villes rachètent les sols et qu'ils donnent des droits de superficie. Comme ça, c'est eux qui feraient la politique. Hein. Et deux, les sols, c'est un peu comme l'air. Ça faudrait que ça appartienne à la communauté parce qu'en fait, on a besoin pour être sur cette planète. Donc, tu as besoin du mètre carré là où tu es debout. Et si ça appartient à des privés, ça, c'est un peu difficile.
Ouais, comme l'eau, l'air.
Peut-être, je ne sais pas, la mayonnaise, je ne sais pas encore. On verra. Ça dépend si on aime la mayonnaise ou pas. Donc là, on sort. Donc, on a un arrangement pour que les gens de Nestlé puissent se parquer encore ici. Donc, c'est pour ça qu'on en a beaucoup de voitures. Sinon, on n'aurait pas de voitures. On a déjà commencé à avoir des locataires et à faire des transformations. Ici, là, maintenant, ça, c'est l'ancien garage où ils réparaient les voitures et leurs voitures. Et aujourd'hui, c'est un endroit pour le quartier et pour faire des fêtes. Donc là, maintenant, le magasin qui est là au rez-de-chaussée, ils font leur fête annuelle ce week-end. Donc, ils sont en train de préparer. Mais nous, on fait, je dirais, à peu près 8 à 10 activités par année où on invite les gens, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des logements ou qu'est-ce qui se passe par rapport à Tanz House ou qu'est-ce qu'on fait avec la Kreislauf House, la maison où on va parler surtout d'économie circulaire. Donc on essaye aussi d'informer et de faire participer la population.
Juste pour bien expliquer, dans le quartier, dans le projet de la Franca Real, il y a quatre entités. Hein.
Ouais.
Il y a Tanz House, Kreislauf House.
Ouais.
Il y a Wohnen et puis tout ce qui est espace
pour le quartier.
Extérieur.
Quartier, pour le quartier. En fait, c'est pour le quartier.
Ah, vous donnez ça à l'ensemble du quartier.
Oui, on essaye de faire des activités. Alors, on a dit que c'est un quartier qui est quand même assez populaire, assez pauvre, qui n'a pas une entité très claire dans la ville de Bâle. Et c'est un des quartiers aussi à un taux d'immigrés, un des plus élevés de la ville. Et il n'y a pas énormément d'infrastructures. Il y a un parc, un peu comme dans tous les quartiers. Et donc, quand on fait une transformation comme celle-ci, on réfléchit à quel usage on va lui donner. On va essayer de développer un narratif tout au départ, de savoir quel est le but final. Mais ce n'est pas des mètres carrés ou des prix par rapport aux mètres carrés, mais c'est plutôt... quelle est l'ambiance qu'on veut avoir, qui c'est qu'on veut qu'ils viennent sur le site, et ce qui va après être le guide, un fil rouge un peu. Donc ce n'est pas un but qu'il faut atteindre, on ne se donne pas non plus une date limite, mais c'est plutôt un cheminement, un narratif, que je puisse dire, voilà ces quatre thèmes. Mm-hmm. Et avec ça, on peut commencer dès le départ. Après avoir analysé le site et les espaces, voir quel est leur potentiel d'utilisation, on essaye de transformer le moins possible, ce qui fait après des loyers bas. Mm-hmm. Et tout d'un coup, il y a d'autres utilisations qui sont possibles parce qu'on n'est pas dans des loyers où seulement des entreprises peuvent se le permettre, mais tout d'un coup, ça peut être aussi des privés qui utilisent ça comme hobby room ou qui peuvent démarrer leur entreprise parce qu'on n'a pas des loyers très hauts, parce qu'on n'a pas vraiment investi énormément. Donc en fait, il y a tout un processus au départ et on démarre, au premier jour, on démarre aussi d'utiliser les locaux.
Ah oui,
on
ne
les laisse
pas
vides. Ça reste pas vide, donc c'est occupé tout de suite, donc ça continue à faire partie du quartier. Donc les gens, ceux qui habitent le quartier peuvent venir à l'intérieur, donc ça fait tout de suite aussi partie du quartier et pas simplement après 6 ans de construction, tu ouvres et puis en fait, les gens pour eux, ça fait pas partie. Donc après, tu es obligé d'aller les chercher. Ça met une dizaine d'années, 15 ans, communiquer, il faut les faire venir. Et puis après, c'est normalement, c'est quand tu fais des grosses opérations, tout est neuf. Donc en fait, il n'y a plus non plus ce lien à l'histoire, aux gens qui ont travaillé là, à les odeurs qu'ils ont eu à côté. Donc en fait, tu essayes le plus rapidement possible, ou même, si, même pas avoir d'entre-deux. Simplement, tu continues, mais c'est simplement l'utilisation qui change.
Une question très bête. Comment est-ce qu'on on décide qui a le droit d'utiliser un espace pour faire de la peinture ou réparer des vélos ou une start-up ou je sais pas quoi, qui n'aurait pas le droit? Parce qu'à un moment, il faut bien répartir les choses. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à avoir accès à ces espaces. Donc, il faut quand même un arbitrage à un moment.
L'arbitrage se fait dès le départ. C'est pas porte ouverte, le premier venu reçoit.
D'accord.
Ça, faut essayer de trouver en fait le lien entre le narratif et le locataire potentiel.
Donc vous faites une sorte de commission qui va regarder les dossiers, évaluer selon le narratif.
Souvent, on cherche activement les gens.
Ah bon?
Ou c'est du bouche à oreille.
D'accord. On fait pas de
campagne, par exemple, de recherche on fait pas de campagne de recherche de locataires.
Vous laissez venir.
On laisse venir ou on utilise d'autres systèmes. On fait par exemple une ou deux soirées sur l'économie circulaire. Comme on est dans ces milieux-là, on sait à qui il faut écrire. Et on dit qu'il y a un potentiel pour des entreprises, des startups comme ça, qui travaillent dans l'économie circulaire, d'avoir un emplacement. Mmh. Et donc on commence à informer. Donc en fait, c'est toujours en fait un échange entre ce que nous on dit et ce que les gens ont besoin. Et en fait, à ce moment-là, on se trouve ou on se trouve pas.
Ouais,
c'est rarement les chemins classiques de location. Ça peut arriver, mais c'est, je me souviens plus quand la dernière fois on a dû vraiment faire ça comme une agence immobilière classique, une annonce ou comme ça. Ça, en fait, on fait jamais.
Ah, ouais.
Ce qu'on fait au tout début, ce qui est très important, c'est en fait d'inviter les voisins. C'est une des premières choses quand on a un narratif, et ça, normalement, on l'a assez rapidement. C'est en fait, on fait c'est pas une réunion, c'est un workshop avec tous les milieux concernés du quartier.
Mm-hmm.
Donc, que ce soit politique, que ce soit habitants et tout.
Association,
l'association du quartier, les associations qui s'occupent des enfants dans
les
le quartier. Il y a les privés. Les privés aussi peuvent venir. Donc, on a environ ici, je crois qu'on avait 120 personnes.
Ah oui.
Et on fait un café mondial. Et nous, au départ, on dit dans quel contexte, eux, ils peuvent donner leurs envies ou leurs besoins. Mais on donne un cadre dans lequel. Donc, c'est pas « je veux une piscine ».
Ouais.
Dès le départ, ça ne fait pas partie du cadre. La piscine et la place de foot ne font pas partie du cadre.
D'accord.
Parce qu'on définit en fait le cadre dans lequel tu peux participer.
Et en l'occurrence, ce sont des activités
Alors ça vient en fait de la population qui vient du quartier. Donc en fait, avec ça, on arrive à aller chercher en fait les besoins. Et à la fin de ces deux jours normalement, ou une journée, et à la fin en fait, c'est les groupes qui priorisent les activités qu'ils ont trouvées qui étaient les plus...
C'est eux-mêmes qui décident le cadre.
Plus ou moins décident, parce qu'à la fin, c'est quand même nous qui décidons. Mais c'est en fait, on va chercher en fait... C'est pas nous qui décidons ce que le quartier a besoin, c'est plutôt les gens qui décident pour eux-mêmes, ou en tout cas les groupes qu'on a invités.
Et le problème inverse, s'il y a des gens qui occupent un espace et ils causent des problèmes de bruit, de je sais pas quoi, et puis finalement on aimerait s'en débarrasser, c'est possible ça?
Oui.
Oui.
Comme partout. Alors on est différents, mais quand même aussi très similaires. Donc au niveau du site, pour l'instant, on a vraiment deux parties. On a une partie qui n'est pas vraiment encore construite dans notre dos. C'est là où il y a le parking pour les employés de chez Nestlé pour l'instant. Et c'est là où on va faire du logement. Et puis après, on a la partie vraiment fabrique où on faisait du un carreau, qui est vraiment construite et qu'on transforme au fur et à mesure. Donc, il y a comme deux facettes complètement différentes sur le même site. Surface principale, c'est à peu près 12 000 m² le tout. Les logements, c'est zone 3, 3A ou 3. Ça sépare à peu près un tiers, deux tiers. Ça passe ici environ. Ça, c'est l'ancienne rue, on voit à travers le garage, on voit l'ancienne rue qui continue à ici. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est locatif et que ça, c'est industrie. Donc, on va faire du logement. On va faire du logement ici et on va transformer dans la partie sud et on va transformer le bâtiment bureau. Administratif. On va le transformer en logement.
En logement aussi?
Ouais.
Ah, super.
On fait souvent du logement, mais c'est au niveau de la visibilité, c'est pas très sexy parce que c'est souvent du logement avant. Donc en fait, il n'y a pas de. Si on transforme 15 logements, toutes les transformer, si on les rénove, ça fait pas. On fait ça assez régulièrement, mais c'est pas. On montre pas tellement, ça intéresse un peu moins les gens. C'est pas public, donc c'est privé au niveau de l'utilisation. Alors qu'un Gong Dellingerfeld, c'est privé, t'as 1000 personnes qui viennent chaque jour, donc c'est nettement plus visible. Mais on fait aussi du logement normalement. C'est pas.
D'accord.
On ne travaille pas en exclusivité.
Non, bon. Parce que j'ai parlé avec Barbara Boozer récemment, ouais. Après son film.
Ouais.
Je lui avais dit, mais je suis étonné que dans tous les projets que vous avez faits, il n'y a pas beaucoup d'opérations de logement. Puis elle disait, ah, parce que c'est. J'avais le sentiment, quand elle parlait de logement, que pour elle, c'est beaucoup de la spéculation, de logement, et puis qu'il faut éviter la construction de logement. Et puis je lui disais, bah, c'est quand même un problème en Suisse, la crise du logement. Donc,
Là, on n'est pas du même avis. On ne pense pas qu'il y ait une crise de logement en Suisse. On pense qu'en fait, les gens utilisent trop de mètres carrés, c'est tout.
Voilà.
Si tout le monde réduisait de 55 à 35 mètres carrés, on n'aurait pas de crise de logement. Moi, je pense que la crise de logement, elle n'est pas vraiment artificielle. Mais y a eu un périst.
Un rapport
où la construction de logements est liée directement au taux d'intérêt des banques.
Ah voilà.
Ça veut dire que si les taux d'intérêt sont bas, tous ceux qui construisent des logements, ils vont construire des logements.
Bien sûr. Ouais.
Et donc c'est pas à cause de la demande ou pas qu'on construit des logements. Ouais. Donc si tout d'un coup on a une offre plus de mètres carrés, si les gens arrivent à se le payer, ils vont louer. Donc, on remplit, en fait, le logement. C'est une denrée nécessaire pour tout le monde. Donc, en fait, ça ne suit pas les lois du marché.
Mais tout de même, les gens ont besoin de beaucoup plus de surface aujourd'hui parce que ce sont souvent des familles séparées, des gens célibataires avec enfants, etc. On a changé la structure de la société, donc... Ça explique qu'on a besoin de plus d'espace, non ?
Non, qu'on ait besoin de plus d'espace, oui, mais qu'on ait vraiment une crise de logement parce qu'on est à 0,5 à Bâle. Je pense que c'est. On pourrait très bien avoir du 3% si les gens vivaient avec un peu moins de mètres carrés. Mais je suis d'accord que peut-être il y a un peu des deux.
Donc c'est ce que vous faites ici, du logement plus compact, peut-être, mais. On partage plus d'espace
Oui, avec dans le bâtiment existant, oui. Après, on va avoir un institut qui s'occupe des gens à leur retraite, ou quand ils deviennent trop vieux, mais qui ont eu une vie toujours dépendante d'alcool ou de drogue. C'est un cadre encadré.
Un EPS, on dit, un établissement
Social, je crois. Voilà, ouais. Exactement. Mais les gens peuvent sortir, donc ils ne sont pas enfermés. Et donc, il y a ça comme deuxième. Donc, il y a la transformation du bâtiment existant. Il y a ça qui est un bâtiment neuf que va faire un architecte local. Après, on va avoir un nouveau bâtiment pour un peu commercial, pour utiliser le sol à bon escient pour que ce soit fait en ville. Et puis le troisième, ce sera encore peut-être 4-5 maisons de ville, on appelle ça. C'est des Stadthäuser, c'est un logement sur 3 ou 4 étages.
Maisons.
Des petites maisons comme ça.
Comme on voit
ça.
À Bâle.
À certains endroits. Ou d'en mettre 4 ou 5 comme ça, l'une après
l'autre. Comme la maison de Barbara.
Ouais, là, ils sont quand même plusieurs là-dedans, heureusement.
Oui, bien sûr.
Donc là, derrière moi, un des points forts, c'est la townhouse. Donc c'est un des quatre éléments qu'on voulait avoir. Ça fait partie justement du mécénat.
Ah ouais.
On va aller là peut-être. Ça fait partie de la demande aussi, ou où on s'est mis d'accord avec ceux qui ont acheté le terrain, c'est de faire un centre de danse à Bâle.
C'est juste de dire que c'est Corinna Eckelstein qui est plutôt intéressée par l'aspect danse.
Oui, elle est danseuse et puis elle a géré à Vienne assez longtemps un centre de danse. Et elle aimerait transmettre la danse à Bâle et avoir aussi un niveau de culture très élevé, mais pour tout le monde. Donc en fait, un centre de danse comme ça, c'est l'idéal. Donc on a commencé en trois étapes, on va arriver en fait à la transformation finale pour qu'elle puisse commencer le plus rapidement possible. Là aussi, de nouveau, cette envie ou cette nécessité de commencer le plus rapidement possible, l'intégrer déjà dans la vie de tous les jours de tout le monde, et pas simplement de faire tout d'un coup, à un moment donné, on ouvre le paquet, puis tout d'un coup, c'est énorme. Comme ça, on peut aussi apprendre. Ça permet de faire des erreurs et que ça coûte moins cher. Donc si on développe ça sur trois étapes sur 8 ans, oui. Ça te permet à la première, tu fais avec ce que tu as, donc tu mets peut-être des sols de danse, ce genre de choses, et tu essaies de voir ce qui marche, ce qui fonctionne, quels sont les qui c'est qui vient, comment le public réagit. Et après, dans la deuxième étape, si tu commences à transformer des silos qu'on va aller voir après, oui. Où ça, c'en était un. Ça, c'est un des silos qu'on a dû ouvrir pour les pompiers. Donc, quand tu transformes cela, tu sais déjà quels sont
les problèmes.
Ouais, puis tu sais aussi quel est le public qui vient, quelle est la taille peut-être de ta salle que tu as besoin. Est-ce que c'est 180 personnes ou 350 personnes? Donc, en fait, tu arrives à minimiser le risque. Et tu arrives à avancer par petits pas.
La première leçon de travailler de manière incrémentale, par étape, c'est justement de pouvoir apprendre d'une étape pour passer à l'étape suivante.
Ouais. Donc en fait, ce qu'on appelle ça l'ernente planum chez nous.
Comment
l'ernente planum,
c'est qu'on avance. Qui apprend.
Ouais,
qui apprend. Apprenante.
Ouais. Ah, ça, c'est un locataire. Je ne sais pas s'il est là. On va voir si on peut vite voir.
Nova Silo.
Chaim Echnal, t'as une loueka?
Ja,
c'est pour nous. Évoque nous loueka, on t'a l'air de l'autre. Je crois. Donc, on va chez un locataire qui a loué un de ses silos. C'est là où était entreposée la chicorée.
C'est super.
C'est ce côté-là, c'est une construction en béton. De l'autre côté, c'est une construction en briques. Ça a été construit en deux étapes. On a 10 silos comme ça. Ils font à peu près 120 mètres carrés. Il faut s'imaginer, c'est 120 mètres carrés, 10-12 mètres de hauteur, des murs lisses jusqu'à à peu près à 8,50 mètres, 9 mètres. Et en haut, une galerie pour marcher, pour aller vérifier le chicorée. Et puis des fenêtres tout en haut. C'est un espace, c'est incroyable.
Donc c'est une immense baignoire à chicorée qui a été vidée entièrement.
Voilà.
Et là, il y a un personnage qui visiblement est un petit peu artistique. Un peu artiste.
Voilà. Ouais. Alors donc ça, c'est un entre-deux. C'est un groupe d'artistes qui vont utiliser cet espace pendant quelques années jusqu'à ce qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on y fera plutôt. Là, on essaye de faire quelque chose qui soit accessible au grand public et qui utilise en fait ces espaces. On parle toujours au niveau souvent au niveau de l'usage. Le départ, c'est toujours en fait le potentiel de l'espace. Donc ici, des grands espaces, grande hauteur, pas beaucoup de lumière. Donc on pourrait très bien s'imaginer une salle de trampoline, une halle de grimpe. Ou mettre un étage entre deux pour avoir un peu plus de mètres carrés. Donc il y a pas ça, en fait c'est ça notre travail, c'est surtout ça, c'est en fait de trouver la bonne utilisation pour les espaces qui existent déjà.
Alors là en l'occurrence, ils ont construit une grande boîte en bois avec beaucoup de réemploi, j'ai l'impression.
Ouais. Absolument.
Et dont qui est en partie vitrée, et le toit de cette boîte en bois fait une mezzanine. Et puis il y a une partie de l'espace qui est laissée complètement vide, où là, bah, visiblement, on peut construire des pièces, des sculptures de grande dimension. Ouais, ouais. C'est un atelier.
Et ils travaillent dans l'art, donc ça va être par exemple pendant Art Parcel, ça c'est un lieu qui va ça va bouillonner parce que ils ont une exposition, ils ont un bar, et ils font.
Alors j'ai compris que du côté de Gabriel Eckenstein, lui, il était proche du monde de l'art balois. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, il fait partie de ce cercle-là. Et on a dès la première année, on a aussi fait partie de ces deux semaines en juin. Ouais. Avec OMG, Oh My Frank, OMG, OMF, pour amener des gens. Ouais. Ça permet pour en fait connaître. De montrer, ouais, pour faire connaître, pour amener. Merci.
Merci.
Donc on a un espace extérieur qui est la cour C. Ça, c'est la cour, la cour B.
Je remarque qu'on voit plein de morceaux de béton découpés. Là, il y a des bouts d'escalier, il y a des bouts de cailloux partout. Quand vous découpez un bout de mur, vous les gardez de côté pour le cas où ça pourrait servir ?
Normalement, on sait déjà qu'ils pourront servir. Sinon, on ne les garde pas.
C'est quand même lourd.
C'est quand même lourd. Et, ouais, évidemment, on réutilise pas seulement les bâtiments, mais on réutilise aussi les matériaux de construction qu'on démonte. Ou alors on achète même, on essaie de s'organiser. Là, on a des tôles, j'allais dire aluminium,
des
tôles ondulées qu'on a achetées pour revêtir la façade de la maison circulaire de Kreislaufhaus. Donc on choisit, on achète en ayant regardé la couleur pour être sûr qu'on n'a pas besoin de repeindre.
Ah oui.
Ça veut dire qu'on ne va pas réinvestir de l'énergie à repeindre en fait, ces tôles. Seulement, on va les nettoyer puis on les utilise telles qu'elles sont. Et ça dure encore 30, 40 années. Donc, c'est au niveau de la durée, c'est pas un problème.
Pour des questions esthétiques ou parce que c'est une protection ?
Non, parce que si on fait des façades, il faut qu'on isole, donc il faut protéger l'isolation, donc il faut mettre quelque chose. Ouais. Et ça, il y a beaucoup sur le marché, il y a beaucoup de tôles ondulées ou de tôles comme ça, aluminium ou comme ça, donc on peut, c'est facile à trouver et on peut choisir un peu ces couleurs qu'elles aillent ensemble. On n'arrive jamais à faire toute la même.
Donc ici, il y a partout des morceaux de bâtiments éparpillés sur le sol. Il y a des bruits de chantier à côté. Au fond, Franck Areal, c'est un peu un chantier habité par des gens.
Oui, tout à fait.
Il faut accepter cette condition aussi qu'on vient ici.
Oui, et ça va. Les premières 8 ans, ce sera comme ça, tout le temps. Ça veut dire que c'est quand même assez. Donc, ceux qui ont besoin de silence ou comme ça, c'est pas tellement l'idéal. Et quand on démonte quelque chose ou on détruit quelque chose, on réfléchit très bien à ce qu'on garde ou pas. Là, on doit faire une protection par rapport à Nestlé à côté, là où il y a le truc de chantier, là, la bâche de chantier. Et en fait, on a démonté beaucoup de tuyaux un peu partout. Donc en fait, on va utiliser les tuyaux pour faire cette séparation vers Nestlé.
Les tuyaux réemployés en barrière.
Voilà, en barrière, ouais. Et c'est en fait... Et Nestlé est d'accord, donc on leur a posé la question, et en fait, il faut que ça corresponde à leurs besoins, c'est-à-dire que ça doit faire plus de 2 mètres et on ne doit pas pouvoir l'escalader.
Oui.
C'est tout. Donc au niveau de l'esthétique, ils trouvaient ça encore drôle, donc alors on va vraiment le faire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tuyaux là, qu'on a récupérés, de petites tailles, grosses tailles, différentes couleurs.
Ouais, ça fait l'esthétique un peu steampunk de Franck.
Ça fait un peu, ouais, absolument. Et on verra là maintenant les bouts de béton qu'on a réutilisés à un endroit. C'est qu'on, je crois que surtout devant, on avait par exemple des dalles. Là, je crois qu'on va aller ici, ça peut être encore intéressant. Ouais. Donc
ça, c'est
une autre.
Ouais. C'est votre caverne d'Ali Baba.
Voilà, ça c'est silo 9. Entrepôt de matériaux de construction qui ont une certaine valeur. Ou qui se détériorent à la pluie, ou certains tubes, ou ce genre de choses. Mais aussi les anciennes garde-robes, certaines choses qu'on achète aussi, qu'on entrepose ici. Et en fait, à la fin, quand tout sera construit, normalement, ça devrait être vide. Ça, c'est le but, en fait.
Donc là, on trouve des canapés, des vieux fauteuils.
Ouais. Ça, on n'est pas tous d'accord.
Très pas envie de les garder,
on, non, on n'est pas très très. On trouve ça pas très cool. C'était tout au début, on a commencé à ramasser beaucoup de choses. Mais par exemple, tout ce qui est caillebotti, ça, tu peux le réutiliser comme barrière. Tu peux l'utiliser au sol. T'as beaucoup de possibilités. Évidemment, tout ce qui est vert isolé, tu peux l'utiliser. Évidemment, tout ce qui est bois, porte, ce genre de choses.
Par contre, les imprimantes, le matériel informatique, c'est
ça,
plus difficile. Hein.
Ça, c'est nettement plus difficile. Oui.
Ouais. Et des lavabos?
Évidemment. Donc, quand tu fais du réemploi, tu as à peu près 3 ou 4 catégories. Le statique, c'est ce qui est le plus difficile, mais qui économise énormément de ressources. D'utiliser des éléments de réutilisation pour la statique. Tout ce qui est porteur, ouais. Ça, il faut être déjà, quand tu fais un projet où tu veux faire de la statique avec du réemploi, il faut se lever tôt, parce qu'il faut réfléchir très, très tôt. Et puis, les derniers éléments, c'est justement ce lavabo et tout ça, ça, tu peux faire, en fait, déjà dans des constructions déjà existantes, c'est nettement plus facile. Mm-hmm. Mais t'as à peu près 4 catégories comme ça, et il faut que tu décides au début. Sur quel catégorie tu vas te fixer ou tu vas essayer de mettre le poids.
Ça, ce ne sont pas les mêmes calendriers, c'est ça?
Oui, puis ça change. Si tu veux faire la statique, il faut que tu aies ça au tout début, de savoir avec comment tu vas le faire, parce que ça influence, ça fait tout ton bâtiment. Alors que pour les lavabos, tu peux faire ça à la fin.
Tu peux
quoi.
Changer quand tu veux.
Voilà, exactement. Et tu trouves assez facilement tout ce qui est vissé, attaché au bâtiment, ça c'est facile. La cour A qui était couverte qu'on a repris, ce qui est en fait par rapport au feu pas possible, donc on a dû enlever, mais aussi parce que comme ça on peut aussi amener de la lumière. Et on a le bâtiment qui fait 7 étages, je crois 6 étages, c'est le bâtiment 21-22 où Nestlé avait à tous les étages, ils avaient entrepôt ou où ils produisaient mayonnaise et moutarde. Maintenant, ils ont repris tout dans les bâtiments d'à côté, donc ils ont vidé. Et c'est là où on fait la maison de l'économie circulaire.
Ah, voilà, donc c'est une maison de à peu près 80 mètres de long, j'ai l'impression. Hein, en
voilà,
travée,
c'est ça. Voilà,
et avec
6
des
étages.
Plateaux libres, ouais. Des fenêtres en bandeau, mais
ouais.
Anciennes.
Ouais.
5 étages sur ré, donc c'est un sacré volume en fait.
C'est énorme, c'est un tiers de la surface qu'on aura louée à la fin.
Plancher.
Ouais, au début, ouais. Maintenant. Avant de faire les logements. Donc on va essayer de remplir ça avec des entreprises qui participent ou qui fondent l'économie circulaire, que ce soit des startups ou des entreprises qui existent déjà. Donc pour qu'il y ait un thème dans ce bâtiment-là. Et au rez-de-chaussée, on est en train d'organiser on a créé une entreprise qui va s'occuper surtout avec les matériaux de construction. Donc avoir un endroit de savoir-faire, quels matériaux de construction, comment on les applique, combien de CO2 on arrive à sauver ou combien de CO2 on dépense, d'avoir un endroit où on arrive à localiser la discussion sur l'économie circulaire dans la construction.
Avec ça, il y a une ambition de créer un pôle de compétences national,
régional,
qui pourrait concurrencer un peu ce qui se fait dans les Faro-Choulet, dans les hautes écoles, voire dans les EPF.
Non, c'est plutôt ce qui s'est ouvert là maintenant dernièrement à Crissier. Il y a Crissier et il y a Baumaterial Central de Zurich.
Ouais.
Et il y a un pendant.
Une matériothèque à Crissier.
Voilà. Ouais. Et en fait, c'est à ce niveau-là.
Ah,
c'est plutôt à ce niveau-là que, donc c'est pas au niveau études et compétences scientifiques.
D'accord.
C'est plutôt il n'y a pas de recherche, c'est plutôt accès et communication et événements.
D'accord.
Plus que. Et donc, ça, ce serait au Ré, là où on a accès, puis après d'autres entreprises en haut, et ça peut être production ou bureau.
Ouais.
On va aller dedans, si c'est ouvert. Je ne suis pas sûr.
Alors, ici, on verra. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi ambitieux que ce que vous dites.
Non, mais ça, au moins, ça fait partie, en fait, du... Ouais, je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas de clé, malheureusement. Donc, on ne va pas pouvoir aller dedans. Et là aussi, on a dû ouvrir tout ça pour avoir tout ce qui est feu.
Ah oui.
C'est pour qu'en fait, les pompiers puissent rentrer.
Oui.
Donc, et ça, c'est aussi un...
Et pourquoi la structure acier reste pour le toit qui a été enlevé? Vous avez enlevé les panneaux de verre ou de
voilà,
structure, là.
Voilà, exactement. Là, derrière, on a enlevé parce que les pompiers doivent pouvoir monter avec leur échelle. Ouais. Et donc ici, on va le garder comme structure, en fait, pour plantation, pour qu'on peut monter... Donc on a déjà commencé là, tout de suite.
Donc c'est de l'agrément, mais aussi une protection solaire.
Ouais. Et dès le départ...
C'est du houblon, ça. Hein, c'est du houblon.
Ouais. Ouais, c'est ce qui pousse très vite, non?
Ouais, c'est ça.
Qui, toutes les années, ça repousse, non? C'est ça?
Ouais.
Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut mieux le faire maintenant, tout de suite. Avant de faire autre chose, c'est de planter déjà. Parce que ça prend normalement, ça prend quand même pas mal d'années. Donc dans 10 ans, ce sera extrêmement vert, alors qu'on n'a pas encore de locataire aujourd'hui.
Ouais.
Donc on commence par...
Voilà,
exactement. D'ailleurs, au Gondeldingenfeld, on a fait la même chose. Et c'est impressionnant comment c'est vert. C'est vert aujourd'hui. Là-bas, il y en a deux qui sortent d'un entre-deux. Donc eux, c'est vraiment un entre-deux. C'est des contrats différemment. Si tu es locataire ou si tu as un contrat d'entre-deux, c'est pas les mêmes contrats. Et c'est un club de boxe.
Ah, je comprends pas. C'est...
Il y a deux, il y a des différences au niveau des contrats.
Donc il y a locataire,
ouais,
numéro un.
Ouais, et puis contrat pour des entre-deux.
Entre deux phases.
Entre deux phases.
D'accord. Alors, eux, ils savent qu'ils devront partir après, je ne sais pas, 2-3 ans.
Peut-être qu'ils s'établissent, ou alors on les change d'endroit, puis ils restent quand même. Ça dépend un peu comment ils s'intègrent. Hein.
D'accord. Que ceux qui ont un contrat d'occupation comme locataire, eux, ils savent qu'ils vont rester.
Ouais.
Donc, pour résumer, il y a deux types de contrats. Il y a les contrats d'occupation temporaire.
Ouais.
Zwischennutzung, c'est des gens qui vont rester pour une période déterminée,
ouais,
éventuellement prolongeable.
Ouais, ou gens... même s'ils s'établissent et on trouve qu'ils s'intègrent bien, tu peux leur donner finalement un aussi. C'est pas obligatoirement qu'ils doivent partir.
D'accord.
Et là, ça, c'est un club de boxe qui cherchait quelque chose. Donc là, on commence, mais ça peut très bien... Club de boxe pourrait très bien rester aussi.
D'accord.
Il n'a pas de...
Et puis l'autre type de contrat, c'est locataire. Et eux, ils savent qu'ils vont rester aussi longtemps qu'ils le veulent, qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas une
limite. Mais c'est souvent, en fait, l'entre-deux, c'est souvent dans des locaux qui sont déjà utilisables aujourd'hui et où tu peux commencer pour que ce soit déjà utilisé, qu'il y ait déjà une vie, qu'il y ait des gens qui rentrent.
Ouais. Parce qu'on sait que ces locaux-là, ils vont être transformés par la suite, c'est ça?
Oui. Ouais, mais on n'a pas besoin de les transformer tout de suite. Ça nous permet aussi d'échelonner les transformations sur pas mal d'années au lieu de devoir faire tout au début pour avoir une certaine rentabilité. Ces projets-là, partout, on est obligé de... Il faut que ce soit économique à la fin, quand même. Pour que ça survive après nous, il faut que ce soit qu'on ne soit pas dépendant de subventions.
Mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui doivent déménager temporairement parce que vous allez faire un chantier?
C'est possible. Alors, on essaie. Alors, pour certaines utilisations, ça ne va pas. Si quelqu'un, je ne sais pas, fait torréfier du café, s'il aura installé son installation, ça va être difficile de le bouger pour 6 mois et puis qu'il revienne à l'endroit, par exemple.
Ouais,
donc là, on essaie. Donc là, on essaie plutôt de faire des choses qui sont déménageables. Le portail, là, c'est de la réutilisation. Et puis aussi le sol là, tu vois.
Ah oui.
Ça c'est les bétons que tu as vus avant.
Ouais.
Ben ça c'est des bétons qui ont déjà été réutilisés, qui avaient été dans un mur, et on voit en fait les tags encore. Et comme pour les murs en béton, il faut toujours d'abord faire un trou pour pouvoir commencer à scier. Donc on doit remplir en fait les cylindres qui ont été découpés. On les utilise aussi pour fermer. Mais c'est pas lisse, mais à un endroit, une entrée comme ça, ça ne pose aucun problème.
Ça fait penser au chemin qui mène à l'acropole, qui a été fait par Picionis. Hein,
ah, comme ça? Ah ouais?
Oui, oui. Picionis, tu connais?
Non.
Ah, je te montrerai les photos après.
Ok.
C'est magnifique. Il y a différentes couleurs, donc on sent quand même qu'il y a eu un peu de travail de composition.
Une recherche,
ici.
Ouais. Et puis évidemment, aux entrées, en fait, on voit, ça c'est déjà les locataires. Donc en fait, la parcelle, elle a été transférée plus ou moins il y a une année, en juin l'année passée. Donc on a quand même une trentaine de locataires déjà.
Oui. Je vois qu'il y a Bas-au-Bureau in situ à Gué, ça c'est vous.
Oui.
Mais ce n'est pas votre adresse principale quand même.
Non, ici, comme on a 8 personnes ou 10 personnes qui travaillent sur ce projet, on a ce qu'on appelle un projet filial.
Ouais.
C'est une filiale où les gens ils viennent ici le matin, ils ne travaillent pas au bureau, pas au bureau principal, ils travaillent ici. On a deux endroits comme ça et trois filiales classiques, je dirais.
D'accord.
Ah, Zurich, oui. Zurich, Bâle et Roll.
Et Roll,
Roll, ah, oui. 4 personnes.
Ah oui, bien sûr. Ouais. À la gare, là, directement.
Ouais,
Ah, c'est vraiment la pieuvre de Bas-au-Bureau.
Voilà, exactement. C'est ça le but.
Un Lager.
Un Lager, là, on peut emprunter des outils. Ouais. Tu payes un abonnement annuel. Et puis tu peux aller chercher perceuse, aspirateur, boule disco. Donc il n'y a pas seulement des outils. Qu'est-ce qu'on peut encore ? Ça, c'est quelqu'un qui va ramasser de la nourriture et qui le redistribue. Mm-hmm. Puis évidemment, c'est une association qui s'occupe.
Circularité intelligence.
Ouais, c'est la circularité, mais au niveau de l'intelligence.
La circularité des idées.
Voilà, mais ce serait en fait, c'est en relation avec la circularité des ressources. Donc tu as les deux là, celui-là et celui-là, ils font partie ensemble. Après tu as un collectif qui a où ils travaillent avec les mains.
Hôtel Regina.
Ouais, tu connais de Muren. Il y a un hôtel Regina à Muren, c'est un hôtel qui était tenu par quelqu'un, où ils ont vendu et puis c'est une coopérative qui a racheté. Et ils font des journées de travail, c'est très beau comme hôtel. Et eux, en fait, ils se sont créés plus ou moins à la même époque. Mais ça, c'est plutôt la génération en dessous. C'est des personnes qui doivent avoir autour de 30 ans et qui, en fait, ils ont un atelier de travail ensemble. Nomol, OK, eux, ils font ils récupèrent des cuisines Foster qui sont en métal.
Ah oui.
Et revamp. C'est pas amélioré. C'est les mettre à niveau. Ils changent les roulettes. Si devant t'as un bug, ils transforment. Et puis après, ils revendent ça. En fait, c'est un type de réutilisation. Mais entre-temps...
Du reconditionnement.
Voilà. Ouais. Donc eux, ils font du reconditionnement. Alors ici, c'est le bureau, c'est pas leur atelier. Et puis, on a... Qu'est-ce qu'on a encore qui est intéressant? Évidemment, là, dans les trucs où on était, puis évidemment, le Kulturhaus, le Tanzhaus. Ouais. Ici, sur ce plan, on voit assez bien les quatre points forts. Donc la maison de la circularité au nord, après la cour A, et puis après tout ce qui est ici jaune, c'est tout ce qui est quartier, plus ou moins.
Oui, c'est le Zenf Silo, Orangerie, Silo, Rösterei.
Ouais. Ouais. Donc en fait c'est tout ce qui est en fait autour de la cour B.
D'accord.
Et puis après Tanzhaus, tout ce qui est rose. Et puis la partie du parking où ça devrait être bleu, mais comme on n'a pas encore de logement, c'est pas encore bleu. Et ce qui était important, c'était le premier locataire vraiment qu'on a eu, qui est pour une longue durée à côté de la Tanzhaus, c'était un restaurant gastronomique.
Ah, d'accord.
Où on peut aller manger à midi, boire un café le matin.
Très important.
Très important. Ça te permet. Ouais, puis ça te permet d'avoir le droit de venir sur le site. Si tu vas acheter un café, c'est que tu as le droit d'être là. Si tu as le droit d'acheter une bière, c'est toujours un...
C'est un grand public, le site.
Oui, ça veut dire qu'il est ouvert au public.
Ah, je comprends, ça ouvre.
Oui, ça ouvre, ouais.
Oui. Et donc, le logement, il va se faire ici, en périphérie. Hein,
oui, donc en fait, ici.
Autour de la Bureau House.
Oui, ici, là, comme ça.
Et ce garage, jusqu'ici. Il va être intégré au logement.
Et il va jusqu'ici, le logement.
D'accord.
Celui-là, on le garde.
Et après le garage.
Oui. Et puis après, ici, il y aura... Ce sera plutôt...
Sur le parking.
Oui, du commercial, là, ici. Du, des bureaux, plutôt atelier ou quelque chose comme ça, avec éventuellement un parking pour remplacer ces 50 parkings ici, mais plutôt un parking en silo, parking mécanique.
Donc la partie logement, elle est ici.
Ouais.
Et cette partie logement.
Jusqu'ici, parce que ça aussi, ce sera transformé.
Ah oui,
transformé.
Parce que le bureau house va être transformé en logement.
Ouais. Donc ça après, t'as une cour intérieure pour le logement ici, avec le bâtiment qui vient ici. Ça te fait une cour arrière quand tu rentres. Et après, tu rentres dans la partie avec. Donc tu aurais une cour, deux cours, trois cours, quatre cours, cinq cours. Et tu peux passer de cours en cours comme ça.
La partie logement, elle sera attribuée à qui ? Est-ce que les gens qui sont déjà quelque part, qui font partie un petit peu de l'animation de ce quartier ou qui occupent un peu les locaux, est-ce qu'ils seraient privilégiés s'ils cherchent un logement ici ? Ou ce n'est pas forcément
non,
le but ?
Non, ce n'est pas le but. Donc on a ici, on a la... Ce qu'on avait dit, le MES, non.
Oui, EPS.
EPS, ici, oui.
Un logement protégé.
Oui, donc lui, il est ici, entre le bâtiment existant et pour la place qu'il a besoin. Donc, ça fera à peu près 42 ou 48 chambres. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. On construit sur 3 étages avec possibilité de rajouter au cas où, tout d'un coup, je pourrais changer la zone. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc, on construit déjà avec la zone 3 au lieu d'attendre d'avoir 5A et de construire plus tard.
Donc, mais c'est possible qu'il y ait un changement d'affectation sur cette zone. Hein,
ouais.
Et on passe à la W5.
Oui, mais par contre, on pourrait construire maintenant 3. Après, on peut faire la demande que ça passe en 5A. Ouais. Et puis, si ça passe en 5A, on construit ça de telle manière qu'en fait, on peut rajouter les deux étages.
Avec une surélévation légère en bois.
Voilà, exactement.
Super. Ouais.
Donc, celui-là aussi, donc là, ici, on ferait plutôt une coopérative qui reprend toute la maison. On espère garder le rez-de-chaussée, que ce soit public, avec le light locker. Mm-hmm. Et donc, en dessus, on transformerait les bureaux en logement. On a déjà fait ça à 2 ou 3 endroits pour Hobelwerk, je crois, et avec Pensimo aussi une fois. Ouais. Et puis après, ce qui reste ici, ça c'est pour ces maisons de ville. Ce qu'on disait, qui reprend un peu ce qui est en face. De ce côté-là, on a plutôt des maisons individuelles que des bâtiments locatifs.
Et qui seraient vendus comme maisons
pas vendues.
Privées ?
Non. Non, on vend. Voilà, on ne vend pas. Ça, c'est le dance house, le foyer. Et quand tu vois, en fait, on a laissé, par exemple, les traces au sol de ce qui était là avant. Donc, les trucs jaunes.
Ah oui, bien sûr.
C'est pas nous qui avons... C'est pas, ça n'a pas été fait. C'est, et donc, on a vraiment utilisé aussi la couleur bleue sur les 2 premiers mètres. C'était déjà là. Donc, on essaie vraiment de garder un maximum, qu'on sente, en fait, ce qui était là avant. Mais on rajoute le nécessaire pour que l'utilisation puisse fonctionner. Et puis évidemment, tout ce qui est feu et accès sans SIA 500. Quoi.
SIA 500, et puis après les normes alors,
d'acoustique.
Acoustique,
ouais.
Très important.
Ouais.
Un peu de luminaire.
Bien sûr.
Un coup de peinture et c'est réglé ?
Pas de peinture. Le bleu, tout ça, on n'a pas peint rien ici dedans. Donc on voit là-bas derrière, par exemple, la porte qui a été fermée là-bas. Ou l'ouverture, on voit que ça n'a pas été peint. Mmh. Ici aussi, tout ça, le bleu, tout ça, les portes, ça n'a pas été touché. Ça, c'est un des... Avec, si tu ne peins pas, tu gardes la patina. Et donc, les gens, ils se rendent compte que ça a été utilisé avant. Mmh. C'est peut-être une des grosses différences. C'est pour ça quand on fait des photos et tout, en fait, on n'a pas l'impression qu'on a fait quelque chose parce qu'on ne peint pas. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas cette dernière couche. On n'essaie pas de la faire.
Et tu penses que ça fait que les gens ils s'approprient facilement les
nettement plus facile. Nettement plus facile. La comment elle s'appelle le bâtiment la 118.
Oui, à Winterthur.
Facile. 118. Facile. Au niveau de la propriété, les gens ils ont amené leur meuble.
Direct.
Ils n'ont pas été chercher le meuble qui va avec l'esthétique. Parce que c'était, ils se sentaient tout de suite à l'aise, tu pouvais amener ta table, ça fonctionnait. Alors que si tu peins, Si tu essayes de donner une esthétique qui est un peu trop poussée,
t'es obligé d'avoir
t'es presque obligé de t'adapter ou d'amener.
De Noguchi.
Voilà, exactement. Voilà. Ouais.
On pourra pénétrer dans la tente Sarve, j'espère.
Non.
Halle,
non. Non. Ah, on va voir si c'est ouvert. Ouais. Si c'est ouvert, on peut peut-être essayer.
Je vois qu'il y a une grande cheminée aussi au-dessus de votre tête.
Là. Ouais.
Vous allez la réemployer, la cheminée, pour faire quelque chose
Voilà.
Peut-être.
Non, extérieur.
Extérieur, vraiment?
Ouais.
Vous allez faire un mur de grain pour la cheminée?
On a une demande de quelques jeunes qui aimeraient. On va vite voir si on peut aller là. Si c'est ouvert.
En gros, c'est l'espace qui fait
la demande. L'idée. Ouais, c'est ça. Ouais.
Yeah, I can't do yours. I'm gonna try, but thank you so much. Probably I'm gonna be back then.
Ça c'est un grand artiste.
Ouais, donc ça c'est, ouais, alors ça c'est la préparation pour les trucs en juin là. Et donc là, on voit, on a récupéré ces bétons pour faire ce mur, donc ces bétons. Et ça c'est pour que comment on appelle, les pompiers puissent passer.
Ah ouais, d'accord.
Donc en fait, c'était une de ces
halles, conditions.
Une des halles d'entreposage. Ça s'est pas encore transformé, mais eux, ils vont faire quelque chose. Et là, maintenant, c'est ouvert, donc on rentre.
Les gens qu'on a vus, ce sont des artistes. Hein, ils avaient un look d'artiste.
Ouais.
Un peu plus rose, et des grosses lunettes.
Bon, voilà. Et donc ça, c'est une des salles qu'on a déjà transformées pour la danse. Mais c'est un entre-deux. Ça
donc
veut
là,
dire qu'on
là,
voit,
c'est
on
encore
voit.
Un silo, mais on a mis un platelage, un parquet en bois. Ouais. Qui est, j'imagine, récupéré, pas forcément.
Non,
peut-être neuf,
mais qui sera... On peut le réutiliser parce que ça va être transformé. Ah. Et donc, on peut l'enlever puis le remettre.
D'accord. Ça crée une atmosphère tout de suite beaucoup plus chaleureuse, un peu soft comme ça.
Ouais.
Il y a une lumière aussi autour qui change la lumière.
Ouais.
Et là, ce sera plutôt pour danser.
Ça, c'est pour danser avec pas de gradins. Les gradins, et puis ici, tu en as une d'origine ou qui est vide, mais avec les lumières aussi déjà. Donc ça donne assez bien. Et puis là, on a ouvert pour pouvoir aller garde-robe, toilette, ce genre de choses. Donc en fait, ça, c'est l'entre-deux du centre de danse. Les salles de spectacle et d'apéritif et tout ça. Les fenêtres ont été fermées pour ne pas avoir la lumière d'extérieur. Et si on fait du bruit, pour ne pas que ça dérange les voisins.
Ah ouais. Mais c'est des espaces...
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, c'est sûr.
Ça capte.
Ouais.
Non seulement les artistes, les architectes, mais n'importe qui.
Ça c'est spécial.
Fond,
ouais.
Ça, une sorte de volume cubique. Vous avez des problèmes d'acoustique par contre, hein.
Ici, oui. À côté, là, ici, on n'a pas fait de. Alors là, il y a ça, évidemment, un peu là-bas en haut.
Là, ça résonne.
Ouais. Mais dans le prochain pas. Normalement, dans le prochain pas. Ici. Allô ? T'entends tout de suite.
Ah oui, c'est un théâtre.
Ouais. Donc là, c'est vraiment théâtre avec... Donc c'est ça. En fait, c'est le truc noir là-bas. Tout ça.
Donc là, c'est le même silo qu'avant. Seulement, ouais. Il a été entouré avec... non.
De ce côté, pas là en haut, oui.
Voilà, des panneaux
ouais.
Acoustiques
ouais.
Noirs. Et on se croirait dans un théâtre...
Classique, un peu... Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a à Lausanne, Vidi peut-être.
Oui, ça ressemble à ça. Ouais.
Ouais. Ou celui-là qui a. Ou à Grosselin, il y en a un aussi comme ça, non?
À Genève.
Ouais. Super. Et ça, c'est, tout ça, ça va être transformé dans 2-3 ans. Et tu pourras redémonter ça et puis le réutiliser au même endroit.
Et pourquoi vous avez tout démonté? Parce qu'il y aura quelle transformation ici?
Probablement, on va enlever ce mur ici à gauche. Pour en fait faire une plus grande salle.
D'accord.
Alors ça c'est l'entre-deux en fait.
Oui.
Qu'on va utiliser là, puis on a un permis de construction qui dure que 4 ans.
D'accord.
C'est un permis temporaire. Ce qui permet de commencer sans devoir remplir toutes les normes qui sont pas nécessaires. Donc le feu, tu es obligé. Et puis l'accès SIA 500, tu es obligé. Mmh. Mais par exemple, il n'y a pas de chauffage.
Oui.
Donc on n'a pas besoin d'isoler. Donc tu n'es pas obligé de remplir toutes les règles de normes que normalement tu as. Il y a un certain nombre que tu es obligé de remplir. Par contre, tu n'as le droit que de l'utiliser pendant 4 ans. Et dans presque tous les cas, tu ne peux pas redemander un autre 4 ans. Donc tu ne peux pas faire 4 ans. Donc après 4 ans, il faut que tu décides, est-ce que je mets tout aux règles, ou on a essayé, ça n'a pas très bien marché, ou on n'a plus envie, et donc en fait tu ne fais plus de demande de permis de construire.
D'accord, donc en fait il y a vraiment un...
Là aussi, nouveau.
Oh, magnifique, le chemin avec les dalles de béton.
Ouais.
Été posé à la avec,
voilà, exactement. Et puis évidemment aussi déjà la verdure de côté.
On pourrait dire, donc c'est du temporaire qui est en fait du transitoire. Ça vous sert à gérer la transition entre le moment où vous faites le projet et le moment où vous pouvez commencer le chantier. Ça permet d'occuper, ça permet de vérifier les choses aussi. Hein.
Ouais, exactement. Et là, avec la maison de la danse, on a poussé ça un peu à l'extrême. C'est que c'était les premiers à venir parce qu'ils avaient vraiment envie. Et donc, on fait le possible. Et en fait, à la fin, on va avoir 3 étapes de construction. La première, c'était la transformation des silos. La deuxième, c'est la transformation de cette partie-là pour des salles de cours, ce genre de choses. Et puis la troisième, ce sera de faire la grande scène.
Oui.
Donc, donc, ça permet eux aussi à s'adapter aux besoins qu'ils ont ici. Donc de pas de faire un programme déjà tout défini tout au début, mais de pouvoir essayer aussi.
Mm-hmm.
Alors, au début, c'était assez difficile à communiquer avec eux parce qu'en fait, ils voulaient tout de suite faire
avec
le grand.
Avec l'intendance
de la maison de danse.
D'accord.
Que ça se fait qu'en fait, de faire une approche comme ça, ça peut être aussi bénéfique parce qu'à la fin, tu construiras vraiment ce que tu as besoin et pas ce que tu imagines aujourd'hui. En faisant ces essais de 3 ans, 4 ans et tout. Et là, on démonte et on essaie de...
Ah, c'est une partie du bâtiment qui est...
Qui a en
investi un... désossé, ouais. Il ne reste plus que l'ossature.
Ouais, c'était vélo. C'était en fait le parking vélo. En fait, ça fait maintenant partie de l'extérieur de la salle de danse. Ils peuvent sortir là. Puis on fait monter de la vigne ici à l'extérieur.
Ah,
ouais. On a fait ça en une journée de travail ou 2 jours de travail une fois, tous ensemble, l'extérieur.
Qui
ranger ceux qui voulaient.
Ceux qui voulaient.
Voilà, on a invité tout le monde. Et puis, là, évidemment, temporalité aussi au niveau des toilettes.
Voilà. Ah, là, il y a un garage à dalles en béton.
Voilà, ouais. Il y en a 2 ou 3. Ça,
c'est une carrière.
Ouais, ça a été enlevé au 4e étage. Du bâtiment 21 et 22. C'était en fait dans une... comment on appelle ça ? Un frigo géant. Et puis ils avaient mis une dalle à l'intérieur. Donc on a pu couper, on s'est posé la question quelle était la taille qui était nécessaire pour, un, pouvoir la descendre avec l'ascenseur, et 2, pouvoir réutiliser. Donc là, maintenant, ça, on peut utiliser comme sol ou comme mur. On ne sait pas encore. Ou escalier. Tu peux aussi faire des...
Oui, un escalier géant.
Voilà. Voilà, là, tu peux aller très, très haut, là, ouais.
Donc, c'est une démonstration qu'on peut construire de manière incrémentale sur un site et pas tout raser et tout refaire à la fois. Mais là, il faut quand même revenir sur l'histoire d'origine parce que... si j'ai bien compris, une partie de la aréale de la friche était déjà en voie d'acquisition. Elle était pratiquement achetée quand vous êtes arrivé. Mais il y a eu une opposition des voisins qui vous a servi en fait, hein, qui a permis que
vous fassiez le projet. Ça a commencé même avant. On a essayé de l'acheter déjà dans le premier tour.
Ouais.
Mais là, on n'a pas offert assez. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a eu le droit d'acheter en fait, mais lui il a posé la condition qu'il fallait que le terrain soit vague, parce que c'est un développeur,
une table rase,
c'est un développeur classique. Donc en fait la condition c'était plus de bâtiments, donc en fait minimiser les risques. Et souvent en fait en prenant les risques, on arrive à être plus rapide et obtenir les terrains, ce qu'on a démontré déjà plusieurs fois. Mais il faut prendre les risques, il faut être prêt. Et en travaillant en fait à petits pas, en fait, on arrive à mieux gérer ces risques-là que si on fait des opérations à grande échelle. Donc là, les voisins ont fait opposition parce que cette fabrique, elle fait partie, elle a été construite, je crois, à la fin du 19e siècle. Donc ça fait partie
du lieu, quoi.
Voilà, exactement.
Elle n'est pas classée, par contre. Hein.
Non, elle n'est pas encore protégée. Peut-être que ça va arriver, mais ça dépend un peu combien on transforme. Mmh. par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les voisins voulaient que ça reste. Ils ne voulaient pas un gros chantier, et surtout qu'on a encore Clibec à côté, qui va être un très, très gros chantier pendant encore pas mal d'années. Donc, en fait, ici, les voisins sont battus pour que ça reste. Mmh. Ce qui nous a permis, en fait, de re-rentrer dans la négociation avec le propriétaire. Et on a pu reprendre, donc surtout les Eckenstein avec la Kruhlquartier Immobilien.
Voilà, eux, c'est, disons, les investisseurs principaux,
ouais.
Mais ils sont allés chercher d'autres investisseurs pour créer un groupe qui s'appelle le Kruhlquartier,
ouais.
Qui rachète ça. Eux, ils prétendaient vouloir refaire un petit peu le coup de Gundelingerfeld.
Oui, c'est plutôt au niveau de l'ambiance, je crois.
Ah oui.
C'est pas le modèle qui les a intéressés, mais c'est plutôt l'ambiance que... Gundelingerfeld, c'est à peu près la même taille. C'est 12 700 m² de surface de parcelle. C'est aussi un droit de superficie où nous, on est propriétaire depuis l'an 2000. Donc, en fait, ça fait passer 25 ans qu'on gère cet endroit. Là-bas, on a fait un centre de quartier. Donc, ça, c'était le narratif à l'époque, ou l'histoire, ou encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. On a pris le parti dans un quartier où il y a 20 000 habitants. De créer un centre de quartier qui n'existait pas encore à l'époque. Il n'y avait pas de centre de quartier, il n'y avait pas d'endroit où le centre de famille était à côté d'un endroit où on fait ces assemblées générales des associations, par exemple, ou un théâtre. Il n'y avait pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle. En fait, il n'y a pas énormément dans ce quartier-là. C'était un quartier qui était surtout logement et industrie, avec quelques places et des écoles, mais pas vraiment autre chose. Donc en faisant ce centre de quartier, on a réussi à amener, en fait, d'avoir un endroit où il y a un focus, et toutes les utilisations et tous nos locataires, on les a choisis s'ils avaient, au niveau de ce qu'ils proposaient comme fonction, s'il y avait quelque chose qui était bénéficiaire pour le quartier.
Ah, voilà.
Donc en fait c'était ça le choix, ce qui fait en fait, et dès le départ, dès le premier locataire, donc en fait ça automatiquement ça devient un centre de quartier parce que tout le temps ils trouvent quelque chose pour soi, donc, que ce soit des enfants ou vieilles personnes, aux immigrés, aux handicapés, aux ceux qui veulent culture, donc en fait il y a tout.
Ouais. Et ça intéresse les Eckenstein, en plus de leur passion qui sont la danse,
voilà,
et l'art
et l'économie circulaire. Ouais, exactement.
Okay,
ouais. Donc on arrive à mettre ça l'un sur l'autre, et notre analyse c'était que c'était un endroit qui était propice pour ce type d'histoire ou de narratif qu'on a.
Par contre, eux, ils vont pas retirer beaucoup de bénéfices de l'opération.
Ils vont récupérer à la fin du droit de superficie, ils vont récupérer le bénéfice.
Dans combien de temps?
80
ans.
80
donc
ans.
Ils sont patients, là.
Ouais, c'est pour leurs petits-petits-enfants. On paye un loyer pour avoir la maison qui est un peu moins ce qu'il y a du marché, mais on paye quand même quelque chose. On paye évidemment tous les prêts qu'on reçoit. Il faut qu'on paye des taux d'intérêt assez classiques pour tout ce qui est commercial, bureau, c'est entre 2 et 2,5%. Donc là, il n'y a pas de... Donc en fait, il faut qu'on fonctionne de manière économique avec un certain rabais au niveau du loyer pour avoir nos bâtiments sur leur terrain. En contrepartie, on doit suivre certaines... donc la danse, l'économie circulaire, donc on est d'accord aussi de le faire. Donc en fait, ça, c'est pas vraiment un deal, mais ça permet à certains endroits peut-être d'aller un petit peu plus bas que des locations de marché, pour pouvoir d'un coup avoir quelque chose qui est vraiment intéressant d'avoir sur place, de baisser un petit peu les loyers.
Et ça permet aussi de créer du logement finalement qui sera accessible, à Bâle.
Disons, il n'y aura pas un rendement haut, mais plutôt un rendement, disons, classique, mais il faut que ça couvre les coûts. Donc ça, il faut qu'on bouge dans un milieu économiquement sain. Donc on est obligé de pouvoir rembourser les prêts, on est obligé de pouvoir réinvestir s'il faut refaire la façade. Donc on n'a pas des passes droits que dans des affaires immobilières classiques.
Alors quel est l'intérêt des Eckenstein? Parce que eux, ils sont les enfants d'un personnage, Thomas Eckenstein, qui était lui-même, je crois, architecte, mais qui a surtout fait une fortune dans le pétrole, l'hôtellerie. Donc c'est un personnage comme ça qui était, paraît-il, farouchement anticommuniste, si j'ai bien lu. Et puis, il avait...
Ce côté-là, je ne connais pas l'histoire.
Voilà, c'était un personnage, on va dire, en couleur, un petit peu ce personnage d'investisseur des années Thatcher et Reagan, quoi, on peut imaginer. Ouais. Et puis, qu'avait son acte de mécénat le plus proche de l'intérêt à l'architecture, c'est quand il va financer la construction de la maison des singes au zoo de Bâle, mm-hmm. ce qui aurait provoqué l'incompréhension de ses enfants. Mm-hmm. À part reprendre une revanche personnelle sur leur papa, quel est l'intérêt finalement qu'ont les Eckenstein dans cette affaire?
Moi, je pense qu'en fait, c'est pas lui qui a fait fortune. Je crois que c'est ses parents. Je crois qu'il était déjà héritier donc de Siva Geigy, l'entreprise de pharmaceutique. Mm-hmm. Moi, je pense qu'en fait, il a assez bien placé la fortune pour ce que les enfants n'aient aucun besoin dans leur vie de tous les jours, mais qu'en fait, ils n'aient pas encore vraiment accès non plus à l'héritage. Mais c'est ma lecture à moi. Donc, c'est pas une officielle. Et donc, là, maintenant, ils ont la possibilité de faire quelque chose pour la ville de Bâle. Donc, d'amener cette culture de la danse, d'essayer de promouvoir l'économie circulaire. Donc, en fait, et pour ça, ils avaient besoin dans un endroit. Il faut ce genre de choses, il faut pouvoir l'ancrer à un endroit sur Terre. Et donc, en fait, ils cherchaient cet endroit-là et on a pu faire ça ensemble.
Alors, est-ce qu'il faut des gens comme ça pour faire des projets comme ça? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des mécènes éclairés pour réussir à faire des projets qui ne sont pas axés uniquement sur la rentabilité?
Non. D'après moi, non. C'est plutôt une exception dans notre curriculum qu'on a maintenant depuis une trentaine d'années. C'est la première fois où on a vraiment un mécène qui vient avec un but aussi précis, mais qui correspond aussi à nos buts. Donc on n'a pas dû changer notre fusil d'épaule, on n'a pas dû changer la manière dont on pense le monde. Toutes les autres affaires qui ressemblent un peu à celles qu'on est en train de faire là maintenant se font dans des conditions économiques classiques. Par contre, ce qui est moins classique, c'est de quelle manière on a approché le développement de ces sites industriels, que ce soit le Kondeldingenfeld, que ce soit Lagerplatz, que ce soit Hanro Areal. C'est souvent des caisses de pension derrière, donc elles n'ont pas de... Leur but, ce n'est pas d'être des mécènes, leur but, c'est d'investir à long terme. Et les caisses de pension pour lesquelles on travaille classiquement ou qu'on va chercher pour financer le projet, c'est souvent celles qui ont peut-être encore à côté simplement du rendement, qu'elles ont peut-être encore d'autres buts, que ce soit développement durable ou d'autres. Il y en a une, elle est plutôt axée sur l'anthroposophie.
Ah oui.
Donc elle voudra développer un autre site que celle que Abendroth, par exemple. Oui. Donc on choisit en fait son investisseur, mais c'est pas par rapport à du mécénat, c'est plutôt par rapport aux intérêts qu'ils ont. Oui. Donc que leurs valeurs correspondent à ce que nous qu'on va faire ensemble. Donc en fait, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on cherche son partenaire. Ouais.
Parce que je me suis demandé dans le cadre de ce dossier thématique, je m'intéresse au transitoire. Mm-hmm. Alors j'ai regardé des histoires intéressantes à la caserne de pompiers Victoria à Berne.
Ah ouais.
Qui est très intéressant, mm-hmm. à Lucerne, au Neubad.
Ouais.
Là aussi, vous êtes impliqué d'ailleurs.
Dans
Victoria aussi.
Ouais.
Ah oui, Victoria aussi.
Ouais.
Vous êtes un peu partout au fond. Et dans ces histoires, à chaque fois, une fois ça appartient à la ville, une fois au canton, donc c'est des terrains publics. Mm-hmm. Et puis, j'écrivais qu'on arrive à ne pas systématiquement opposer activités socio-culturelles, associatives, versus création de logements. C'est ça qui m'intéressait à Berne, à Lucerne et maintenant à Franck, mais aussi à Winterthur avec Campo.
Ouais.
Et j'ai fait ça parce que je vois qu'en Suisse romande, il y a des sites qui sont en ce moment en transformation à Genève, à Lausanne, à Fribourg aussi, ouais. Où j'ai l'impression que la tentation, c'est de faire pas forcément table rase, mais en tout cas transformer, construire et faire du logement, parce qu'on pense que c'est ce qui est le plus rentable. Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces récits pour, comment dire, pour inciter les romans à faire un peu différemment?
Je ne pense pas qu'il y a la thématique du logement. Moi, je ne poserai jamais la question sous cet angle-là. Est-ce qu'il faut faire du logement pour que ce soit rentable, pour que quelqu'un participe? C'est plutôt, est-ce que ça fait du sens d'avoir du logement à cet endroit aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a vraiment un manque de logement à cet endroit-là, ou est-ce que quel type de logement on peut faire avec la danse à côté, ou avec dans la population dans laquelle on est? C'est plutôt... alors que pour beaucoup d'investisseurs, évidemment, le logement, c'est ce qui est de plus sûr, parce que tout le monde doit se loger. Donc, en fait, on arrive toujours à louer ou à vendre ses appartements. Donc là, c'est plutôt une logique de financier et d'investisseur et pas de faiseur de ville. Donc je pense que là, ça dépend un peu de l'attitude de l'investisseur. Et évidemment que après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est construction est devenu un produit des finances. Donc on pense rendement, après 60 ans, dans ton bilan, c'est 0 franc, donc tu peux le démolir. Alors c'est toute une autre réflexion qui se fait. Et évidemment, le logement a une grande place, parce que justement, tu es presque sûr de pouvoir louer. Et par contre, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas encore assez d'exemples où en fait, on peut faire du rendement, mais en suivant en fait d'autres buts que simplement de faire du rendement. On a par exemple, on parle souvent aussi de Stadtrendite, donc un rendement différent que simplement le rendement financier. C'est quel est le profit en fait du voisinage si on fait ici quelque chose. Est-ce qu'ils ont si on fait que du logement, ils ont rendu voisins supplémentaires. Si c'est dans du neuf, c'est des voisins supplémentaires qui doivent travailler parce que les loyers sont élevés. Donc, en fait, c'est des gens qui ne vont pas participer à la vie de quartier. Donc, en fait, il y a un rendement nul au niveau de Stadtrendite. Alors que si on fait un endroit où les enfants peuvent aller à l'intérieur jouer parce qu'il y a une place de jeu couverte, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'habitants dans des petits appartements avec des grandes familles. Donc, tout d'un coup, ils auront un endroit où aller. Donc, tout d'un coup, ça devient une valeur ajoutée pour le quartier. Et c'est là où... Ça, c'est plutôt les réflexions que nous, on essaie de faire. C'est en fait, quelles sont les valeurs ajoutées pour tous les partenaires? Alors, il y en a une qui est claire, c'est celle du financement. Il faut que ça fonctionne. Mais il y en a plein d'autres qu'on arrive à gérer en choisissant le bon locataire, en écoutant quels sont les besoins, en essayant de ne pas trop investir dans les bâtiments, comme ça les loyers restent bas. Donc tout d'un coup, il y a plus de possibilités de choix au niveau des locataires. Et donc ça, en fait, ça se répercute à tous les échelons de décision qu'on a à prendre. Donc en fait, c'est toujours une approche extrêmement large.
En résumé, il n'y a pas une recette miracle qu'on peut appliquer partout. Par contre, il y a une méthode, et c'est de dire on laisse le site déterminer les besoins. C'est le site même et la population qui est là qui va finalement amener la programmation et donc les changements à venir. Et vous, ce que vous savez faire, c'est une méthode pour pouvoir
On s'est rendu compte assez tard que cette méthode existait. On a commencé à faire surtout. Ouais. Et on parle d'un triangle. C'est le lieu. Et de construire avec le lieu, mais le lieu, c'est les bâtiments et l'endroit où c'est, mais c'est aussi le voisinage, c'est les gens qui habitent déjà là. Après, c'est la programmation. Donc, quelle programmation on fait dans ces bâtiments? Il faut que le lieu et la programmation y ait, que ça fonctionne. On ne peut pas faire une piscine n'importe où, on ne peut pas faire un bar n'importe où, un hôtel n'importe où, donc il faut que ça corresponde par rapport. Et en fait, il faut avoir les gens qui ont besoin de ce programme ou des gens qui sont prêts à réaliser ce programme. Ouais. Et donc en fait, c'est la négociation entre ces trois pôles. Ça, c'est la grosse partie du travail, et ça, c'est le narratif. C'est pourquoi je fais ceci, cela, ici, et avec qui je le fais, et pourquoi je le fais. Et si on a ça, normalement, on a un projet où on trouvera un investisseur, où ça va fonctionner. Et souvent, en fait, d'après nous, c'est un des problèmes de gros investisseurs, ils ne font pas ce triangle. Ils font que programme ou que rendement. Et donc, ils ne vont pas penser à quelle autre valeur peut avoir un bâtiment qu'une valeur de gagner de l'argent.
Ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans les opérations en cours à Lausanne ou à Genève, il y a beaucoup, beaucoup de blocages, des oppositions et des projets qui sont fixés, qui sont prêts. Et en fait, ils ne démarrent jamais parce qu'il y a toujours un problème d'opposition. Alors que votre méthode, elle démarre très vite, elle va lentement, mais au moins elle démarre. C'est la tortue contre le lapin. Ça veut dire qu'elle démarre.
C'est ça, ouais. Et on finit avant.
Vous n'avez pas vraiment d'opposition? Ou alors, à des petites échelles, peut-être?
Assez rarement. On essaye aussi, on ne fait pas de plan de quartier.
Ouais. Donc, sur quoi on s'oppose?
Oui, ça devient difficile. Si on respecte les lois de construction à cet endroit-là, ça va être difficile d'être opposé. Donc en fait, on ne fait pas simplement au niveau du bâtiment, on fait avec ce qu'on a, mais aussi avec les lois de construction qui sont en vigueur en ce moment à cet endroit. Donc je l'ai dit avant, on va construire du 3 étages pour le logement. Alors qu'on sait, on pourrait essayer de commencer maintenant pour avoir du 5 étages. On pense que ça pourrait marcher, ça va peut-être 10 ans. Donc ça veut dire que si maintenant nous, on démarre maintenant le logement, dans 2 ans, on a du logement. On aura pendant 8 ans, on aura déjà eu du logement. Alors que sinon, on aurait peut-être, dans 10 ans, on saurait qu'on peut faire 5. Ouais. Donc, ça ne dirait de nouveau 5 ans jusqu'à là. Donc, on aurait perdu 15 ans. Donc, on préfère maintenant planifier 3 étages avec possibilité de rajouter 2 étages. Donc, on est rapide. Donc on a une vie sur le site, il n'y a pas une friche dans un quartier pendant 15 ans. Donc c'est intégré tout de suite dans le quartier, donc on est nettement plus rapide à la fin. Peut-être pas avec autant de mètres carrés, mais au moins on l'aura vu.
Bien, merci beaucoup Eric Honegger pour la visite, c'était absolument passionnant.
Merci d'être venu.
Et comme toujours, vous retrouverez sur espacium.ch tous les documents, les plans, les images qui accompagnent ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt.
Architecture, ingénierie, paysage, urbanisme, patrimoine. Vous écoutez Baoculture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à retrouver et écouter sur espacium.ch.
Merci beaucoup pour la visite.